Radio Rocco, toujours en direct de cette nouvelle édition du Festival des Rocomotives. Nous sommes en direct du Minotaure et nous avons envoyé un envoyé spécial tout terrain assister à une table ronde. C'est Thomas de Studio Zef qui est parti à l'aventure pour se projeter dans les musiques actuelles et la ruralité.
Oui, merci Ludo. Salut déjà, je prends
oui,
l'antenne.
Oui, bienvenue,
concerne,
salut, donc, ça va, la voilà, forme.
Très bien, je suis ravi de vous retrouver ici à Radio Rocco. Et donc, quand certains vont voir des concerts, moi je vais voir des tables rondes sur les musiques actuelles et la ruralité et la qualité des échanges qui se sont déroulés dans les deux dernières heures m'ont donné envie de poursuivre un petit peu et de faire un petit bilan des échanges qui se sont tenus donc ici cet après-midi avant demain. Je suis avec Grégoire Pateau de l'UFIS, qu'on va revenir sur cet acronyme un peu difficile, mais qui travaille pour des choses tout à fait intéressantes dans le secteur des musiques actuelles et des industries culturelles. Et puis je suis avec Julie Rosenkrantz.
Bravo.
Pas mal. Du GIP Café Culture, pareil, on va revenir sur le cadre de l'action du GIP.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Julie, donc est-ce que vous pouvez présenter le GIP Café Culture ?
Bien sûr, avec plaisir. Le GIP Café Culture, comme son nom ne l'indique pas, soutient à la fois des cafés de moins de 200 places qui embauchent des artistes et des techniciens du spectacle vivant. Ça, c'est le premier fonds qu'on gère depuis bientôt 10 ans, depuis 2015. Et on soutient aussi plus largement, depuis un peu plus d'un an, d'autres employeurs occasionnels du spectacle vivant. Alors, qu'est-ce que c'est les employeurs occasionnels du spectacle vivant ? Ce sont des structures qui n'ont pas pour activité principale l'organisation, la production ou la diffusion de spectacles, mais qui en organisent plus ou moins régulièrement et qui, du coup, quand ils le font, doivent le faire correctement, bien sûr, doivent embaucher les artistes, les déclarer, payer les cotisations sociales et puis, surtout, peuvent être soutenus par le biais du GIP Café Culture quand ils le font concrètement. Ces employeurs, c'est des comités des fêtes, des associations d'animation de quartier, des associations de parents d'élèves, des commerçants, les communes aussi. Les communes de moins de 3500 habitants, notamment, peuvent bénéficier de ce fonds d'aide. Je pourrais y revenir plus largement, mais en gros, c'est ça.
On va y revenir, puisque la ruralité va nous occuper dans le quart d'heure qui vient. Grégoire Pateau, l'UFISC, donc, quel est son but, son objectif dans l'accompagnement des industries culturelles ?
Et d'où vient cet acronyme barbare ?
C'est ça.
L'UFISC est un regroupement de fédérations et d'organisations professionnelles du champ des arts et de la culture. Pas tant des industries culturelles, plutôt d'ailleurs du champ associatif.
Ouais.
On regroupe pas mal de fédérations. Pour l'anecdote d'ailleurs, la Ferraroc est membre, un des 16 membres de l'UFISC. On a des fédérations comme la Fédélima sur les lieux de musique actuelle,
la
Fédération nationale des arts de rue, la Fracama en région est également adhérente. Et voilà, et ce qui fait commun là-dedans, c'est justement pas tant une entrée disciplinaire ou un secteur d'activité, c'est que l'ensemble de ces fédérations regroupe des adhérents qui sont plutôt du champ de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire plutôt des modes de structuration associatifs ou coopératifs. Et pour la petite anecdote, cet acronyme barbare de UFISC vient de la création de l'UFISC qui s'est constituée à une époque où des projets de loi visaient à fiscaliser les associations, à en faire des entreprises classiques, mmh. à qui on fait payer un impôt sur la société, à qui on fait payer la TVA comme n'importe quelle entreprise classique. Et des gens se sont dit non, 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 il faut faire valoir la spécificité du monde associatif, la dimension non lucrative des activités des associations, leur spécificité en termes de modèle économique. Et donc cet acronyme un petit peu difficile à porter en 2024 vient de là, UFISC, clin d'œil à cette lutte pour revendiquer une fiscalité spécifique aux assos.
Et elle charrie, donc on l'aura compris, beaucoup de sujets. Donc on a parlé, vous avez parlé tous les deux notamment de ruralité. On est ici à Vendôme, une ville qui fait, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas moins de 10 000 habitants, un territoire extrêmement maillé. L'agglomération vendômoise, c'est 66 communes, Jérôme de Figure Libre le rappelait en ouverture de cette table ronde. Donc très rural. Comment on peut... faire un bilan rapide des échanges qui se sont tenus cet après-midi et puis parler de l'organisation rurale de la culture.
Alors, je me permets d'y aller.
Vas-y.
La Fracama m'a sollicité pour animer ce temps d'échange autour justement de comment, quels sont les enjeux, les problématiques rencontrées par les acteurs des musiques actuelles en milieu rural. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il y a des manières d'y répondre? Il s'avère que l'UFIS travaille un petit peu sur ces questions de ruralité depuis une grosse quinzaine d'années aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir un petit peu une vision, justement, des spécificités, peut-être des enjeux. Et donc là, le but de la table ronde, c'était un petit peu d'essayer de faire remonter des expériences et des problématiques d'acteurs de terrain de la région Centre-Val de Loire des musiques actuelles implantées en ruralité, pour essayer de mieux organiser l'accompagnement et le développement de ces acteurs-là. Et c'est pour ça, et d'ailleurs c'était assez intéressant, il y avait en présence aussi les différents niveaux de collectivité, puisque le port d'entrée, c'était ce qu'on appelle le contrat de filière, c'est-à-dire un dispositif de soutien aux musiques actuelles, coporté, je crois, par la région, la DRAC, la Fracama, Seine-au-Centre. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question dans son ensemble, mais bon, ce qui ressort et qui est intéressant, c'est de... avant tout de démontrer que on peut casser aujourd'hui très facilement l'adage qui dirait que la ruralité c'est une zone blanche où il ne se passe rien, où il faut amener de la culture, de la ville, etc. Et ce qui était intéressant, c'était plutôt de montrer à quel point il y a une myriade et une diversité d'initiatives citoyennes, associatives, du champ des musiques actuelles et plus largement du champ de la culture qui existent, qui sont déjà très fortement implantés au plus près des habitants. Et peut-être la vraie problématique, la vraie question, c'est comment essayer de renforcer les coopérations et de renforcer peut-être les liens entre des opérateurs plus institutionnels, des scènes de musique actuelle ou les différentes collectivités, avec ces acteurs associatifs qui parfois manquent un petit peu de moyens ou manquent aussi ce qu'on a un petit peu parlé d'ingénierie, c'est-à-dire d'être accompagnés dans le montage. Et je renvoie la balle à ma collègue.
J'allais
parce que justement,
le faire toi-même, Grégoire.
On se gère.
Non, mais c'est vrai que le GIP Café Culture, c'est un outil qui répond hyper bien à ces enjeux et ces problématiques d'ingénierie, puisqu'il est facile d'utilisation.
Ouais. Oui, exactement. Et c'est une des choses, je pense, qu'on a beaucoup évoquées cet après-midi aussi, c'est que finalement, personne ne pense les choses en silo. Tu ne te dis pas, je fais de la musique, je pense musique. En fait, tout est très connecté au territoire et aux différents besoins des territoires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, nous, au GIP Café Culture, que, en fait, tous ces acteurs qui font des demandes d'aide pour obtenir des aides à l'emploi quand ils embauchent des artistes, ils font du spectacle, mais ils font aussi des ateliers de réparation de vélo, des ateliers de je ne sais quoi. En fait, ils recensent tout un tas de besoins, justement, sur ces territoires-là. Ils se réunissent et ils répondent à ces besoins et le spectacle. L'organisation de spectacle est un de ses besoins. Donc c'est plutôt intéressant à noter. Et effectivement, tu me disais, Greg, le besoin en ingénierie, il se fait sentir. Le besoin aussi de, parfois juste de connaître les dispositifs qui existent. À ce titre-là, je prêche évidemment pour ma paroisse, mais le GIP est un bon outil. Nous, on ne regarde pas du tout les questions de programmation. Chaque organisateur est libre de programmer le spectacle qu'il veut. Ce n'est pas du tout notre endroit. Nous, ce qu'on va regarder, c'est que l'emploi artistique est fait en bonne et due forme. Et à partir du moment où tous ces acteurs déclarent les artistes et techniciens qu'ils embauchent via le GUSO, ils peuvent bénéficier d'une aide au GIP Café Culture qui prend en charge un pourcentage de la masse salariale des artistes qu'ils embauchent, en fait. Donc on est vraiment là, on a beaucoup parlé de droits culturels aussi, c'est exactement cette logique-là. de dire en fait il se passe des choses dans les territoires, l'activité culturelle y est évidemment dingue et elle peut être soutenue via des dispositifs très simples comme le JIP Café Culture. La démarche, elle se fait, je le fais en 2 secondes, mais je peux pas m'empêcher. La démarche, elle se fait en 2 temps. L'employeur qui veut embaucher des artistes se crée un compte sur notre site internet. On va lui demander, nous, 2 documents de vérification pour être sûr qu'il est bien éligible, parce qu'on a quand même des critères d'éligibilité qui sont assez simples, ça se retrouve sur notre site internet. Et une fois qu'on a vérifié cette éligibilité, on valide leur compte et ils peuvent faire leur demande d'aide pour chaque spectacle dans la foulée, en fait. Et je fais un focus vraiment là sur la région. La région Centre-Val de Loire finance les 2 fonds que nous gérons et l'État aussi. L'État a rajouté des moyens d'ailleurs récemment via le plan de ruralité. Donc on est plutôt nous dans une dynamique intéressante là de dire oui, dans les territoires ruraux il se passe des choses et en plus on a un peu de moyens pour soutenir ces dynamiques là.
Alors, on le voit, le territoire est vraiment bien assez, assez riche en propositions, en acteurs qui peuvent porter des initiatives culturelles. Par contre, il est aussi remonté qu'il pouvait y avoir une méconnaissance, notamment des élus, des décideurs, des financeurs, d'une interconnexion possible entre les différentes structures qui peuvent aider à monter des projets. Et ça a été il y a assez vite dans la discussion, il y a eu un missile balancé sur l'idée que il y avait des accompagnements possibles, mais que on se connaissait pas, c'était compliqué, il fallait d'abord faire ci, puis ensuite aller voir telle personne. Donc il y a une espèce de barrière encore à franchir pour que tout le monde aussi, et pas que les gens qui veulent porter des initiatives, mais aussi ceux qui les financent et qui peuvent les accompagner, de s'y mettre aussi et de connaître tous les outils à disposition.
Oui, c'est un problème multifacette. Il y a à la fois la conscientisation de la part des différents niveaux de collectivité, de la richesse et de la diversité des acteurs qui composent leur territoire. Et ça, c'est pas forcément facile. Ils n'ont pas forcément les moyens ou les habitudes de travail pour aller identifier vraiment tout ce qui se passe. Et puis, des petits acteurs associatifs, parfois, ils galèrent un peu dans leur coin. Et puis, ils ont déjà du mal à toquer à la porte de leur mairie ou de leur communauté de communes. Donc, souvent, ils se sentent un peu impuissants.
Et du coup, ils font ça dans l'illégalité, comme tu le rappelais, Julie, et que les artistes ne sont pas payés comme ils devraient l'être ou comme ils pourraient l'être, puisque les moyens peuvent être développés et employés.
Oui, après, ça... Je pense que ça dépend vraiment, et c'est vrai que d'ailleurs je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les petits acteurs associatifs, parce que souvent les pratiques en termes de salariat, elles sont aussi contestables parfois dans les petites collectivités ou autres. Non, je crois que le nœud du problème, il est la question effectivement d'une meilleure identification de la diversité des acteurs qui composent les territoires. Ensuite, une problématique de meilleure interconnaissance, c'est-à-dire, mais ça c'est marrant parce que la région arrive et dit, nous on est considéré comme un gros guichet à subvention. Alors que, donc finalement, les acteurs, ils ont cette vision-là. En fait, finalement, mon département, ma région, c'est juste un guichet à subvention. Ouais. En fait, finalement, ce qui pourrait faire avancer un petit peu la chose, et une réunion comme cet après-midi participe, c'est créer des moments et des espaces où justement les acteurs de nature diverse peuvent se rencontrer. Un peu mieux s'interconnaître, enfin c'est un peu pourri comme terme, mais mieux se connaître les uns les autres, voire partager leurs problématiques justement, essayer de comprendre qui parle à quel endroit et quelles problématiques ils rencontrent. Et de toute façon, c'est que à travers ce dialogue et cette meilleure connaissance des uns des autres que peuvent ensuite se nouer des dynamiques un petit peu plus de coopération et de meilleur soutien. Après, il y aura toujours cette problématique des cadres politiques et de subventions qui sont malheureusement bien souvent inadapté au petit projet. Et c'est le scud initial par-delà. Hein. C'est de dire à un moment donné, nous, on est un petit festival avec pas beaucoup de public. On nous dit, en fait, vous n'êtes pas assez gros, assez structuré pour qu'on vous finance. On financera qu'à partir d'un tel temps. Et ça, c'est finalement une acculturation et un changement de paradigme à travailler vraiment sur le long terme. La seule solution, selon moi, c'est de continuer vraiment à faire valoir l'importance de ce tissu associatif sur les territoires et puis de ne pas les considérer comme juste simplement des initiatives bénévoles qui ne sont pas forcément dignes d'intérêt, mais regarder et se rendre compte que le tout culturel, on parlait de droits culturels, que les droits culturels, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on observe et on permet à chaque expression culturelle d'exister, de se confronter à celle des autres, etc. C'est un travail de fond, en fait. Il n'y a pas de réponse comme ça, miracle. Et voilà, encore une fois, un petit temps comme cet après-midi, il participe à son endroit.
Eh bien, on va conclure avec une dernière question. Tu voulais rajouter quelque chose, Julie ?
Non, mais on est d'accord. En fait, effectivement, de toute manière, à partir du moment où on dit qu'il faut arrêter de travailler en silo, c'est la chose la plus difficile à faire. Ça veut dire aller travailler avec des acteurs qu'on connaît moins, travailler avec peut-être des réseaux, des structures qu'on connaît moins. Si je reprends ce que je connais le mieux, du coup, l'exemple du GIP Café Culture, on va toucher, nous, des acteurs aussi divers que potentiellement un poissonnier qui organise un spectacle, une crèche qui organise un spectacle, une commune de moins, un café. Donc forcément, c'est aussi des gens qui ne se parlent pas ou peu, ou en tout cas qui sont pas dans les dans ce que nous on peut appeler les réseaux traditionnels, voilà, qu'on connaît bien, et du coup forcément ça demande beaucoup d'efforts, et effectivement Greg a raison, ça se fait que en allant parler, en trouvant des espaces d'échange, des réunions, et ça prend un peu de temps, mais c'est ça le boulot intéressant à faire.
Et souvent on se demande à quoi servent des fédérations, et notamment une fédération comme la Fracama, et typiquement les têtes de réseau, comme on peut les appeler de manière un peu barbare, jouent ce rôle-là justement d'interface et d'interaction et de mise en collectif de ces problématiques.
Eh bien, merci à tous les deux donc pour ce débrief de cette table ronde qui s'est
T'auras pas eu le temps de faire ta dernière
question. Non, bah non, mais je vois que ça presse, on a des invités encore, et tout ça, tout ce plateau doit se tenir.
Tu peux y aller.
Ouais.
Tu peux y aller. Je te donne la parole.
Oh, merci Ludo, tu es magnanime. Une dernière question en forme de provocation un peu peut-être. On voit que la culture va encore une fois, comme souvent malheureusement, prendre un peu potentiellement un peu cher dans le projet de loi de finances. Malgré tout, la ruralité est au cœur du projet culturel du gouvernement et de la ministre. Donc est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'il y a des signes positif d'une installation pérenne et d'un développement de la culture en milieu rural à l'heure où on parle là aujourd'hui.
Je vais commencer. Alors moi, je peux pas répondre pour l'intégralité des politiques du ministère, mais je peux répondre sur mon périmètre. Effectivement, nous, on voit, on l'a dit pendant la table ronde aussi, les cafés qu'on peut soutenir, ils sont à 40% dans les territoires ruraux, et les autres employeurs occasionnels dont je parlais, ils sont à 70% dans les territoires ruraux. Donc, on a une oreille bienveillante du ministère en ce moment. On a eu, nous, des moyens financiers qui ont été débloqués spécifiquement sur les territoires ruraux. Donc, côté soutien à l'emploi artistique par ces employeurs-là, en tout cas, effectivement, on est plutôt soutenu en ce moment, malgré le contexte, malgré tout, j'ai envie de dire. Après, si il faut faire un focus plus large, je laisse Greg qui trépigne à côté de moi faire un commentaire.
Moi, j'ai pas la réponse. Ce qu'on entend des services, c'est que pour l'instant, ils savent pas. Il y a ce fameux dont on parle tout le temps, là, en ce moment, la radio, aux infos, du PLF, projet de loi de finances, avec plein d'économies qui sont demandées. Donc, en fait, en vérité, on sait très bien qu'il va y avoir des énormes coupes budgétaires, qu'il y a des efforts qui sont demandés aux collectivités. Donc, ça va être un temps d'austérité très compliqué. Mais, comme je disais en sortant, en discutant, de toute façon, les gens, ils sont là. Les acteurs associatifs, ils sont là, ils feront. Quoi qu'il se passe, maintenant, avec quel niveau de soutien, c'est encore difficile à dire, et il n'y aura sans doute pas de miracle, peut-être ponctuellement sur quelques dispositifs, quelques aspects, des signaux un petit peu positifs. Maintenant, on peut quand même, et ouais, je suis sympa, je vais quand même finir par un truc positif.
Tu vas dire du bien de la ministre.
Non, mais une chose, en fait, ça existe depuis longtemps, depuis toujours même, ces initiatives et cette richesse au sein du milieu rural. On peut pas enlever le fait que avoir fait ce printemps de la ruralité, ça crée un focus, ça donne une visibilité et ça permet de mettre en lumière quand même la richesse culturelle de ces territoires. Et de toute façon, ça restera quelque chose de positif. Maintenant, en termes de moyens d'action concrètes qui en sortiront, en fait, en vrai, on peut pas encore exactement dire, mis à part quelques dispositifs à la marge, vraiment l'effet de fond qu'il y aura.
Eh ben, on fait un gros bisou à Rachida et puis on vous remercie tous les deux. Alors merci.
Merci à toi.
Julie, je vais le refaire, je crois, je me lance dans un truc. Rosenkrantz.
Bravo.
Du GIP Café Culture.
Toujours aussi et bien la deuxième fois.
Merci. Et Grégoire, Poteau de Lufisk. Merci à vous deux.
Merci à vous pour l'accueil.
On fait une pause musicale, Ludo, je crois.
Et bah ouais, et merci aussi à toutes les orgas des lieux dits, des corps de ferme et autres, et à ces publics qui se déplacent, qui est souvent un public bien plus intéressant qu'en centre-ville. Hein.
Tout à fait.
Je tiens à le préciser.
Et on va passer la parole, je crois, après la pause musicale, à une radio qui se trouve plutôt en milieu rural, contrairement à la majeure partie des radios qui occupent ce plateau. Et on est ravis de les accueillir pour la première fois.
Radio Dynamo,
ce sera eux juste après.
Qui accueilleront les Finish and Drive qu'on écoute tout de suite.
Ah, c'est merveilleux.
Dans Radio Rocco.
Take me in, sun is up.
Encore un titre qui nous donne encore plus envie de vibrer ce soir à la programmation du Festival des Rocomotives. Au Minotaure de Vendôme, les Finish and Drive qui nous rejoignent sur le plateau. Et nous avons le plaisir d'accueillir à nos micros pour les interviewer Julien et Romain de Radio Dynamo à Leblanc.
Salut à tous.
C'est ça, tout est dit.
Salut. On a effectivement l'honneur d'accueillir Finish and Drive. Je prononce ça bien en anglais.
Alors, c'est pas moi qui vais t'aider parce que c'est le pire nom pour un français de dire Finish and Drive. Mais je crois que.
Alors, ici, Diego, peut-être que t'as.
Même si
chose...
c'est pas anglais.
Vous parlez de Finish and Drive.
Non, je sais pas. J'essaie d'apprendre à le dire, je dirais Finish and Drive, mais voilà.
C'est comme ça que je l'aurais dit, moi.
Mais on a eu plein de sortes de dérivés à cause de ça, quoi. Du Finish
and Drive. Et donc là, vous avez pu entendre la voix de Mathieu et de Diego.
C'est ça.
Et qui arrivent tout juste de Bruxelles, hein, c'est ça, vous arrivez
Ah, ils sont descendus de la voiture, ils ont ouvert la porte, on les a attrapés, on les a mis derrière le micro.
Exactement.
Eh bien, bienvenue.
Ouais, merci beaucoup.
On a même eu droit à... Bah, chez nous, en Belgique, il y avait du soleil.
Exactement. Et on est venu là, et maintenant il fait mauvais. Le monde à l'envers.
En tout cas, Finish and Drive, comment vous présentez, vous êtes 6. Au niveau des influences, on va être plutôt sur des influences orientales, je pense à Erkin Koray notamment. Et vous allez aussi flirter avec le krautrock, avec notamment des influences type Cam, c'est ça hein.
Ouais. Je vais laisser la parole à Diego qui justement a proposé de nous rencontrer, de faire un métissage autour du rock et justement de la musique traditionnelle. Et moi j'ai connu Erkin Koray grâce à Diego. Qui était à l'origine du projet en fait.
Moi ça me rappelle beaucoup les années 60 psychédéliques en Turquie. Du coup c'est quoi qui t'a amené sur ces choix-là toi?
Parce que ça faisait depuis longtemps que j'étais en train d'étudier la musique du Moyen-Orient, surtout la musique du sud des Balkans. Et en fait moi je viens du Chili et j'avais toujours aimé le rock. Mais aussi, j'étais pas mal fan de la musique du monde, comme on dit. Et puis quand je suis arrivé en Belgique, en fait, je connaissais personne qui aimait le rock. Et puis après, j'ai rencontré...
Comment ça, les Belges n'écoutent pas du rock?
Non, mais je connaissais vraiment personne. Il y avait juste des gens de ma classe et je parlais à peine français. Et puis après, un jour, je rencontre des gens, parce que je faisais un peu de jongle de cirque, que je jouais un peu des musiques nomades, donc klezmer, Balkan, etc. Et donc un jour il y avait une darbouka et comme je voulais juste jouer de la musique avec des gens, ben je commençais à jouer la darbouka.
Oui, parce que c'est ça aussi, comment vous résumez, c'est un mélange de plein d'instruments. D'ailleurs, on peut peut-être le citer.
T'es sûr?
Vas-y, fais-nous rêver.
Donc, il y a du oud électrique, il y a un sort de saz, guitare 12 cordes modifiées, il y a 3 synthés, batterie, basse,
il y a 200.
Deux fois banjo aussi.
Il y a des fois du banjo. Et en tout, on est 6 et il y a plus ou moins 9 instruments. Voilà. À la fois des instruments modernes et des instruments plus trad.
Et du coup, il y a cette approche aussi sur le côté acoustique, tu me disais, Mathieu. Ouais.
En fait, normalement, nous, on est plus dans le format standard où on est sur scène à 6 avec plus les synthés, une vraie batterie et tout. Et on a adapté un set acoustique sur nos propres morceaux qu'on réarrange et on chante tous les 6. Normalement, on est 2 à chanter dans la version électrique, ce qu'on appelle électrique et semi-électrique. La version acoustique, en fait, c'est la semi-électrique. Et on est en cercle au milieu des gens. Et donc, la difficulté, c'est de pouvoir passer au-dessus du volume des voix que nous... C'est pour ça que j'ai proposé qu'on chante à 6 pour avoir assez de volume. Et après, les gens sont autour de nous et servent de résonance acoustique et même pour être plus ancrés aussi avec nous et qu'il y ait moins cette barrière de la scène et de l'artiste comme ça.
Oui, puis ça crée presque une ambiance... Enfin, tout le monde est en transe, j'imagine.
Ouais, au bout d'un moment, on va essayer de faire ça ce soir aussi, hein, mais... C'est pas tout le temps gagné, mais oui, il y a un truc de proximité qui fait qu'on est un peu plus proche et on sent qu'il y a plus de chaleur comme ça humaine et ça nous emmène un peu plus loin, quoi.
Ce soir, vous allez jouer en bas au milieu des
ouais,
personnes.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Et ce set acoustique, il est travaillé depuis combien de temps là ?
Ça fait 3 ans. C'était pendant le Covid en fait qu'on a fait ça. Et du coup, c'est un peu une parenthèse. À la base, ça devait durer juste 1 an. Ouais. Et que c'était aussi une facilité pendant le Covid où on avait des difficultés à pouvoir jouer sur des vraies scènes et tout, d'adapter en fait un set qui pouvait jouer dans un jardin ou dans des festivals un peu pirates. Et c'est ce qu'on a fait. Et après ça, finalement, comme pas mal de gens qui nous connaissaient ont vraiment aimé ce que ça donnait ouais, et tout, ils nous ont proposé de dire faut continuer ce projet-là, c'est pas juste un projet à mettre. Et du coup, on a enregistré et on aimerait bien le sortir le disque, alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu.
Ah, on allait y venir.
Oui, parce que là, pour le moment, il y a 2 EP, c'est ça ? 2 albums, dont le dernier en 2023, c'est ça ?
Il y a eu un premier EP, je sais plus quand. Ça, tu pourrais peut-être
2017,
m'aider.
2017, je pense.
Oui.
Voilà.
Et après, on a réussi à renseigner.
Mais oui, c'est ça. Il y a 3 EP, je crois, et un album. Et le dernier, nous, on le considère un peu comme un album. Parce que, enfin, ça dépend des formats, qu'est-ce qu'on peut appeler un album. Mais pour nous... On l'a écrit comme si c'était un album, même s'il n'y a que 4 morceaux, 5, bref. Et donc non, là, on est en train d'écrire sur l'électrique, parce qu'on veut quand même revenir sur cette formule, qui est la formule sur laquelle on a défendu le projet à la base. Et l'acoustique, on l'a enregistré en parallèle, parce qu'on ne voulait pas finir juste comme ça, l'acoustique, et fermer la parenthèse. Donc, et on fait ça nous-mêmes aussi.
Et la sauce est bientôt finie, là, l'album est dans les clous, ça vient...
On est en train d'écrire.
On est en train d'écrire.
Ouais.
Donc, une possible sortie pour.
Pour 2025, on essaie de sortir ça fin 2025.
Trop cool.
Ouais. Voilà.
Très, très cool.
Du coup, toujours sur le label Exact Records ?
Normalement, oui. Ouais. On aime bien cette collaboration-là. Donc, on a envie de. Maintenant, on est devenus amis. Donc, on a envie de partager ça avec lui.
Oui, d'ailleurs, pour les connaisseurs, il y a quand même King Gizzard and the Lizard Wizard aussi, accompagné ouais, par Exact.
Ouais.
C'est un bon petit label.
Ouais. Non, non, c'est chouette.
Vous travaillez avec eux depuis l'origine, en fait ?
Oui, et lui après il a travaillé aussi en coproduction avec Stolen Body en Angleterre, le premier EP on l'a sorti comme ça. Et je sais pas s'il y avait un label français aussi.
Non, c'était plus tard à SK Records.
Ah si, oui, il y a eu SK Records aussi sur Lyon.
Mais au début, avec Sage, c'était l'ancien batteur d'un des gars du groupe et il a commencé un peu son activité de label presque en même temps que nous on a commencé. Donc c'était un des premiers à vouloir, ils nous ont beaucoup soutenus, aidés sur, même la personne, le directeur du label a été même notre manager à un certain moment.
Et il a découvert en même temps que nous, on va dire, le process de faire évoluer un groupe et tout ça. Donc on pouvait, de lui, enfin de sa part ou de nous, on pouvait vraiment partager les idées qu'on avait et lui, il pouvait nous guider sur certaines choses, et nous, on pouvait aussi le guider sur des groupes à découvrir, comment fonctionnait aussi la scène et tout ça.
Une tournée en perspective ? Tu disais peut-être une tournée en Belgique là que tu préparais ?
Ouais, on a une petite tournée belge dans 2 semaines.
Je dis tu parce que c'est toi qui te retrouves un peu à organiser tout ça, c'est
ouais,
ça ?
Les temps sont durs et du coup on n'a plus de booking actuellement. Et donc c'est moi qui m'occupe de ça. Et
peut-être d'ailleurs vous cherchez un booking, non?
Alors pour la Belgique, oui, enfin nous quand on est aidé c'est toujours mieux. Maintenant le label a engagé quelqu'un pour faire aussi le booking en interne. C'est pas pour tout le temps, mais c'est juste pour avoir un soutien. Et mais par contre pour d'autres pays comme la France et tout, oui, on cherche, nous sommes là pour trouver un booker quelque part. Et on a prévu d'aller en Espagne pour la première fois, parce qu'il faut savoir qu'au sein du groupe, il y a 2 Français, 2 Belges et 1 Chilien et 1 Espagnol. C'est pas le début d'une mauvaise histoire. Mais voilà, et du coup, pour la première fois, on va aller en Andalousie. Et ça nous tient très à cœur parce que Joaquin, qui joue du saz électrique et de la guitare, vient de là-bas et il s'est réinstallé depuis peu dans ce pays. Et du coup, on va enfin pouvoir découvrir tout ça.
En tout cas, nous, ça nous tenait à cœur de vous rencontrer parce que, effectivement, sur Radio Dynamo, on est très dans l'éclectisme et on aime bien aussi, justement, toutes ces influences.
Ah, bah là, on est au cœur du métissage.
J'aimerais peut-être continuer sur l'écoute. Est-ce qu'on s'écouterait pas Paul the Tiger?
Pas de micro.
Et oui, pour se donner un peu une idée, j'ai envie de dire le meilleur c'est l'écoute.
Ouais, carrément.
Et chez nous, vous êtes déjà à l'antenne d'ailleurs. Parce que...
On écoutait donc Paul the Tiger de Phoenician Drive. On est toujours en compagnie de Mathieu et Diego avec Julien pour le plateau Oroco Multiradio. C'est un honneur, je le répète, parce que bah, nous, comme je disais, ça correspond vraiment à, nos, à notre ambiance musicale, enfin en tout cas moi personnellement. Et qu'est-ce que vous auriez comme projet à venir là ? Peut-être une autre influence ou pas ?
Par rapport à la composition, tu veux dire ?
Ouais.
On essaye d'intégrer plus de claviers. Et le dernier album, Glow, donc le morceau qu'on a écouté qui fait partie de cet album, un peu plus solaire, un peu plus lumineux, parce que justement, c'était, je pense, ça découlait de cette période de Covid où on était un peu enfermés et que c'était difficile, surtout qu'il faisait super beau.
C'était en fait, c'était la libération, quoi.
Ouais. Et du coup, il a un truc un peu plus comme ça, brillant et tout. Et la tournure de laquelle prend le prochain disque, j'ai l'impression que ça revient sur un truc un peu plus dark, un peu plus profond. Et voilà. C'est le seul truc que je peux dire, c'est difficile.
D'accord. Et comment ça se monte du coup, vos morceaux à vous ? Comment vous les travaillez ? Vous êtes tous ensemble ? Il y a plutôt des rôles de répartie ? Comment vous montez vos morceaux en général ?
Il y a un peu de tout, et même pour rebondir sur la question des influences, en fait, on pioche un peu de partout. Il n'y a pas que du kraut, la musique orientale, il y a l'exotica, il y a du post-punk, il y a du post-rock. En fait, on essaie de trouver, de prendre un contre qui peut aller, qu'on peut retrouver ou sentir un peu l'appel qu'il y a aussi dans une certaine musique traditionnelle. Et puis, j'ai oublié ta question.
Ah non. Tu disais comment vous faisiez pour monter un morceau tout simplement.
Ah oui, donc c'est laborieux. Tu imagines avec 6 personnes, avec 6 influences différentes, avec chacun avec des influences différentes, c'est pas toujours évident. Et il y a plusieurs façons. Donc, soit il y a des personnes qui arrivent avec des idées très précises qui sont ensuite déconstruites. Des fois, certains qui arrivent avec des idées précises et qu'on les fait tant que telles. Et puis après, on prend du recul et on dit voilà, plutôt ceci, cela. Des fois, on ramène juste des petites idées d'ambiance ou une rythmique et on y travaille dessus.
Et c'est quoi vos influences du moment ? Parce que ça pourrait peut-être nous donner un avant-goût de l'album que vous travaillez.
C'est quoi ? Moi, j'ai un peu une. Je reviens sur Animal Collective, mais la période Mary with a Post Pavillon ou a Strawberry Jam. Et donc ça en fait partie de mon côté. Et je sais pas, toi t'as.
Moi, je suis en plein minimal wave et IBM dark wave et musique sérielle. Donc,
ouais. Moi, j'avais une question sur. Vous êtes 6 mecs, c'est un choix ou peut-être justement intégrer peut-être une femme ou plusieurs. Ça vous viendrait peut-être. Ça serait plutôt ouvert.
Je poserai la question. Pourquoi poser cette question-là?
Je sais pas, pour amener peut-être du chant féminin en plus, pourquoi
oui,
pas.
Mais disons, on pourrait transposer cette question-là. Vous êtes 3 mecs, pourquoi pas ramener une fille ? Ça, je ne comprends pas très bien. Ça, je comprends que ça peut être un sujet d'actualité, mais en soi, c'était circonstanciel. C'était juste qu'à un certain moment, quand on va monter un projet, c'est vrai que on se dit pas. Ah ok, donc il y a juste 2 Européens, il y a juste 2 Latinos, est-ce qu'il manquerait quelqu'un du Moyen-Orient peut-être ? Non, et donc finalement c'était vraiment circonstanciel, et je crois que aussi tu peux imaginer, avec 6 personnes c'est déjà compliqué, nous on joue depuis, ça va faire 10 ans presque, et donc ensuite, tu vois, c'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Peut-être on pourrait inviter...
Non mais vous avez peut-être fait des propositions, je sais pas. Enfin, toi, c'est un peu l'objet de ma question. C'était plus dans ce sens-là.
Oui, je comprends, mais en même temps, c'est un peu bizarre parce que comme tu imagines, c'est un projet, comme c'est un projet de radio, comme c'est un projet festival, et s'il y a quelqu'un qui arrive et tape à ta porte, qu'en fait, t'as déjà fait ton équipe de travail, tu peux pas tout le temps... Désolé de prendre comme ça, mais c'est juste que je ne comprenais pas très bien.
Non, mais on en discutera okay. En off, t'inquiète. Il n'y avait, rien de critique derrière.
Bah, en tous les cas, on vous retrouve à 22h30, c'est ça que tu as dit ?
Non, 23h. 23h40. On va dire 20 comme ça. Ouais.
On vous retrouve à 23h40 sur scène. Et ouais. Bon, c'était de bons concerts, en tout cas, nous deux. On va se régaler à vous voir, yes. Je pense.
Merci. Un grand merci. Ouais.
Merci les gars.
On était avec les Finish and Drive. Voilà, on a plusieurs prononciations possibles donc à retrouver ce soir. On reçoit là juste après le trio Meule. Et d'ailleurs, on va en écouter un extrait avec le titre Getaway. Meule dans Radio Rocco et Meule à ne pas confondre avec Meute, la fanfare allemande, hein, puisque comme nous a dit Chami tout à l'heure, il a un peu confondu les deux. Voilà, bref, il a cru que Meute allait jouer ce soir. Malheureusement, pour lui, ce sera Meule. Voilà, il est déçu, je le sens. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir deux tiers des Meules pour l'instant.
Ouais, demi-Meule.
Attention à ça. Hein.
Demi-Meule. Allez.
Et on entend déjà leur voix, formation Tourangelle qui officie ce soir au Festival des Rocomotives, et c'est Patrice de Studio Zef qui va les cuisiner, les faire fondre.
Salut les meules.
Hello.
Salut. Les deux tiers.
Les deux tiers.
Donc on a ici Valentin.
Tout à fait.
Et
Donovan.
Donovan.
Ah oui, Léo.
J'avais pas ça.
Pour les intimes.
Voilà. une des dernières interviews de Léo avec Meul, puisque tu as Exactement. Quitté le groupe, c'est ça ?
Tout à fait, aujourd'hui même.
Bienvenue sur la dernière, vous êtes donc sur Radio Nova.
C'est vrai ? Et oui. C'est ton dernier concert
c'est
avec
C'est mon dernier groupe, concert avec Meul. Okay.
Bon, moi, je vous ai déjà cuisiné il y a quelques années, en 2021, c'était à la Chapelle Saint-Jacques. C'était
et la première fois que tout à fait.
Vous c'est produisiez.
On m'entend ? On m'entend ?
Oui. Ouais.
Ah, ok, je m'entends pas fort. Autant pour moi. J'aime bien m'entendre fort.
T'es dans le P16.
Je suis dans le P16, c'est ça. Il est où là ? J'entends pas.
C'était il y a 3 ans seulement, en 2021.
Oui.
Depuis, il y a eu pas mal de. Un beau parcours, des disques, un LP 6 titres et un album Bored aussi. Qui
deux
est
EP.
Deux EP.
Ouais.
Long EP.
Bah, deux disques.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est qu'il a fallu mettre des étiquettes dessus. Donc, il fallait choisir entre EP ou album. Mais si on prenait album, on n'allait pas pouvoir avoir les subventions au jour où on allait faire un vrai album.
C'est vrai.
Et voilà.
Okay.
Donc, alors, mais sinon, c'est des disques. On a fait deux disques.
Okay.
Et on va en faire un autre. On fait des disques.
C'est pas fou.
Et le dernier, il est sorti il y a un an et demi, en avril. Bored.
Exact.
Vous avez terminé cette année assez folle pendant laquelle vous avez donné plus de 50 concerts depuis le mois de janvier. J'ai compté. Et vous êtes même allé jouer en Corée du Sud au mois de juin. Comment vous êtes retrouvé à jouer là-bas, en Corée du Sud ?
C'était les Escales, c'est
ouais, c'est ça. Mmh. On a joué dans un festival à Saint-Nazaire qui s'appelle Les Escales.
Ouais.
Et c'est un festival qui est partenaire avec plein d'autres festivals dans le monde entier. Et du coup, il se trouve qu'il y avait une programmatrice coréenne qui était là, qui a aimé, qui nous a proposé de venir pour un festival qui s'appelle le DMZ Peace Train Festival en Corée. Et autour de cette date-là, on a essayé de monter une petite tournée. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé à jouer là-bas.
Okay. L'accueil du public là-bas, ça donne quoi ?
Et bah, hyper cool.
Ouais.
C'est marrant parce que au DMZ, on arrive, personne ne nous connaît vraiment. Mais petit à petit, il y a un truc de. Alors, c'est difficile de savoir parce que c'est loin de Séoul, mais de bouche à oreille qui se fait. Et en fait, on se retrouve à Séoul à avoir un concert de programmé, on en refait un le lendemain.
Ah oui.
C'était ça, hein ?
Le surlendemain. Le surlendemain
ouais.
Parce que c'était complet.
Parce qu'il fallait suivre le truc. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou.
Et le public, c'était assez dingue. Genre, là, il y a une différence avec nous. Je pense que. J'en sais rien. Je vais donner mon hypothèse. Ça se trouve, c'est pas la bonne. Si c'est pas la bonne, vous nous appelez au standard. Il n'y a pas de souci. c'est que je pense qu'il y a un truc de peut-être ils se lâchent moins en mode grand public. Du coup, quand c'est en mode festival, c'est OK. Mm. Et du coup, ils ont un truc hyper de fête, bienveillante, où ça fait tout le temps des rondes. Ils ont vraiment un truc avec une sorte de queue-leu-leu de chenille en mode rond sur tous les concerts, sur tout le monde. Il y avait vraiment ce truc et du coup c'est vraiment hyper bienveillant, les gens sont hyper heureux et nous ça a été assez fou. Et puis ça, on a retrouvé ça dans tous les concerts, c'était pas que sur le festival. Okay. Et donc pour nous ça a été hyper agréable. Et puis oui, un accueil public qu'on n'a pas eu jusqu'à présent.
Ouais, puis curieux, puis qui grimpe. En fait c'est ça le truc qui est fou, c'est ça grimpe. Premier jour il y a 100 personnes, deuxième il y a tellement de monde qu'il faut qu'on en refasse un. C'est assez impressionnant ce truc là. Ça nous était jamais arrivé. Je suis pas sûr que ça se reproduise dans une vie, un truc où en 4 jours tu bookes plusieurs concerts. C'est fou comme expérience.
Bon bah chouette. Bah ce soir il y aura peut-être une chenille pendant votre concert.
Bah je peux éventuellement appeler à la chenille si jamais.
Alors, ce qui est intéressant c'est quand c'est spontané, tu vois.
Voilà, la mécanique a été tempérée. Donc on va faire une mi-chenille. On va dire si vous voulez spontanément faire une chenille, faites-le, mais si vous voulez pas, il y a aucun souci.
Oh, c'est un bon endroit pour faire des chenilles ici. Bon après c'est plutôt vous voyez pas, vous jouez sur la grande scène.
Mais il y aura plus de place.
Bah voilà.
C'est l'intérêt.
Il y a un gate sur toi.
Ouais, c'est ça.
Donc Léo, ouais, tu quittes le groupe.
Ouais, carrément.
T'en avais un peu marre de les voir.
Je pouvais plus vraiment, même en peinture, vraiment pas possible. Non, il y a un truc où. Mais après, c'est du registre de l'intime et du perso, mais. Il y a un truc où ça a tourné beaucoup et après c'est vraiment, encore une fois je le redis, c'est d'intime et du perso. Moi personnellement, avoir un projet dans lequel mettre tous mes œufs, à un moment je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui moi me portait préjudice, mais moralement mon petit cerveau de Léo Capès, voilà, qui est différent du cerveau d'un autre. Et voilà, du coup j'ai pris cette décision et les gars ont été super en fait avec moi à cet endroit là.
Pour revenir au projet que tu avais avant Meul aussi, parce que avant de.
Alors il y a Lenny effectivement, ouais. Moi il y a aussi une volonté de partir tout seul.
D'accord.
De commencer à. Voilà, j'ai des chansons qui dorment, j'ai des choses, j'ai envie de prendre le temps un peu de poser tout ça, puis de repartir sur une dynamique de groupe plus personnelle, parce que j'ai l'impression d'avoir. Enfin, j'ai envie de dire des choses, et puis ça se trouve, j'aurais plus envie dans 2 ans, c'est voilà. Mais je pense que c'est le moment de le faire pour moi. Et ce qui est, j'ai de la chance d'être entouré de gens avec qui c'est possible de dire ça et de pouvoir à un moment dire bon bah voilà c'est super ce qu'on est en train de faire mais moi là il se passe quelque chose qui me convient pas et être capable de le réfléchir et que les gars m'aient permis de le réfléchir, d'avoir pris le temps de le faire et un moment de pouvoir leur dire ce truc là et qu'ils qui, m'écoutent et deux me laissent totale liberté et bienveillance là-dedans, enfin avec bienveillance, c'est mortel en fait. J'ai la chance de pouvoir faire ça en fait. J'ai la chance de pouvoir dire bah moi j'ai envie d'aller ailleurs et les gars m'ont pas retenu quoi, au contraire.
Et du coup il y a
enfin, au contraire on l'a pas poussé non plus.
Non attends, ils m'ont jamais poussé d'ailleurs. Non pas du tout.
Du coup il a fallu trouver un remplaçant ou plutôt une remplaçante en l'occurrence, c'est ça?
Ouais en fait ça a été un questionnement un petit peu parce que en fait le profil de Léo était pas forcément facile à trouver, de batteur chanteur, batteur chanteuse.
Il y avait Phil Collins mais il était c'est pas ça, dispo.
Il était plus trop opérationnel aussi. Et du coup, s'est posé la question aussi du coup dans Meule de est-ce qu'on avait toujours envie de ce chant lead, enfin en tout cas plus lead que nous on était potentiellement capable de faire. Ouais. Voilà, du coup, on a eu une grosse réflexion. Il y avait aussi cette envie de ça rebondit avec la question de tout à l'heure sur Fashion Drive.
T'as bossé pour une radio ou pas?
non, mais c'est que juste avant, il y a eu un petit. T'as vu le conflit qu'il y a eu sur la question. Ouais. Non, mais c'est que du coup, on s'est posé la question. Bah, ça serait bien peut-être de trouver une femme avec qui travailler. C'était vraiment plein de choses, c'était pas que ça, mais on s'est dit bah tiens, ça serait intéressant sur la tournée de partir avec quelqu'un d'autre pour créer une autre dynamique aussi entre nous dans la tournée, enfin voilà, une autre expérience et musicale et humaine, parce que comme dit Léo en fait la tournée c'est pas que de la musique, c'est aussi beaucoup d'humains, beaucoup de choses, beaucoup de place, et du coup on voulait essayer d'autres choses pour nous aussi. Et il se trouve que Marine, je la connaissais déjà, on avait déjà joué avec elle, c'était assez cool, enfin en tout cas les expériences de son que j'avais avec elle, et du coup on lui a proposé, sachant qu'elle avait déjà beaucoup de projets. Donc elle a dû faire un petit peu un choix aussi de dire ok, bon là elle va prioriser du coup Meule, mais nous ça va nous forcer aussi dans notre travail à faire attention à cette chose de pas être trop tout le temps que sur Meule et de se laisser de l'air pour d'autres choses, même si ça c'est ce qu'on dit au début et puis après on verra bien ce qui se passera quoi.
C'est aussi une tourangelle hein, comme vous.
Ouais c'est ouais. Ça, ouais, Marine Flèche qu'on salue, qui est là ce soir aussi, voilà, qui joue avec plein de groupes Tourangeau, ça fait très longtemps qu'elle est là et voilà.
Je suis moi ravi que ce soit elle qui me succède, c'est vraiment super. Ça me fait trop plaisir.
Et donc derrière là, c'est la fin de la tournée, c'est ça. Après il y a quoi, un disque qui va être enregistré, qui est déjà.
Alors ouais, donc ce soir c'est donc la dernière. On dit que ça fait 3 ans parce que du coup on a joué ici au Rocomotive il y a 3 ans. Ouais. On avait déjà commencé à jouer un petit peu avant, mais on considère surtout la date avec Doris qui était arrivée justement ce soir-là. Donc en fait ça fait vraiment 3 ans qu'on joue les mêmes morceaux. Donc du coup c'est la fin de la tournée.
Vous voyez l'album Bored.
Voilà. Et du ça coup on est bien content aussi que ça se finisse ici. Enfin c'est un beau message pour nous. Et pour la suite, l'idée là cette fois c'est de faire un album. Enfin on aimerait faire un album qui est censé sortir potentiellement en septembre de l'année prochaine. Mm-hmm. Du coup on s'était dit qu'on arrêterait les dates avant septembre prochain, mais la vie fait que là on a été sélectionné pour l'Eurosonic, une sorte de l'inouï du printemps de Bourges européen on va dire, et donc du coup on est repart pour une date, 2-3 dates en janvier.
C'est où cette année l'Eurosonic?
C'est aux Pays-Bas, hein, je crois que c'est
Pays-Bas.
Toujours là-bas, mais on va essayer de trouver 2-3 dates sur la route pour roder le truc, parce que donc Marine va arriver direct dans cette ambiance un peu avec que des pros, donc ça va être un peu tendu, donc on veut trouver des dates avant. Bref, et donc voilà, mais on va quand même se laisser du temps, parce que vu que ça fait 3 ans qu'on est sur la route, pour arrêter de faire de la musique, se vider un peu le cerveau pour pouvoir recomposer des choses un peu fraîches.
Ok.
Voilà.
Et pourquoi pas revenir aussi sur le plateau de Radio Rocco, comme tu l'as fait il y a quelques années?
C'est-à-dire en salarié?
Non, voilà, on veut faire.
Non, mais je veux dire j'ai le terme, mais en tant qu'animateur, c'était plus ça, pardon.
C'est ça, animateur, comme on en fait pendant 3 jours.
Il faudrait que j'ai le temps de faire ça. Parce qu'on dit qu'on tourne pas, mais on a dû.
Il y a plein de trucs à côté. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas besoin de dire, mais qui existent. La vie.
On a une vie quand même!
Merci
mais
à vous,
ça sera avec grand plaisir.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Bon concert. N'arrivez pas trop tard si vous nous écoutez sur les ondes.
Tu parles
d'aller voir Meule en concert, c'est ce soir au Rocomotive.
Eh bien ouais, on est très content de retrouver Meule. Peut-être une date libératoire aussi, je ne sais pas.
Catharsis.
Cathartique, effectivement. Merci beaucoup d'être venu à nos micros de Radio Rocco qui s'achève en ce jeudi. On se retrouve demain à partir de 16h. On remercie un peu toutes les voix qui ont défilé aujourd'hui, cet après-midi, derrière nos micros, avec Thomas de Radio Campus Orléans, avec Thomas, Clémentine et Patrice de Studio Z. Jeff, Ludo, moi-même, tiens, je m'autonome, Pablo de Radio Béton, Chami de Bob FM, Leslie de Résonance, Marlène et Lilian de Radio Active. Nous avons eu aussi la team Ballistique, la team Dynamo avec Julien et Romain. Merci beaucoup à Clémentine et Sarah d'avoir fait la technique durant ces 3 heures. On se retrouve demain pour une nouvelle session de Radio Rocco et on se quitte eh bien, avec les Meules et leur titre Nos Couchettes.
Ciao.
Le Festival des Rocomotives fait vibrer Vendôme du 26 octobre au 2 novembre.
Plus de 40 artistes à découvrir sur scène pendant 8 jours dans plusieurs lieux du centre-ville. Vivez le festival en direct sur Studio Zef les jeudis, vendredis et samedis.
Grâce au plateau partagé avec les radios de la région de 16h à 19h.
Rendez-vous donc le week-end prochain aux Rocomotives à Vendôme.